et il trouve une foule qui l'acclame, une foule qui veut le porter quelque part au nu. Ils ne savent pas que quelques jours plus tard, il sera sur une croix. Ils n'ont pas réalisé, et même après, beaucoup ne l'ont pas compris, qu'il était mort pour nos péchés. Et ça, je crois que nous l'avons bien compris, globalement, en tant que chrétien évangélique. Mais nous n'avons pas compris une deuxième raison de sa mort, bien souvent. Nous l'acclamons, mais nous avons oublié qu'il est aussi mort afin de nous réunir en un seul peuple. Pas simplement pour nous sauver de la mort éternelle, mais pour nous réunir en un seul peuple, pour constituer l'Église. Et il est mort, et le texte biblique le dit littéralement, il est mort pour cela aussi. Il y a deux raisons à sa mort. Et je trouve que ce deuxième aspect, on le met beaucoup moins en évidence. Jésus est mort pour que l'Église fasse corps. Et c'est pourquoi que j'ai pris ce texte avec cette question, pourrons-nous nous entendre? C'est le grand défi, je trouve, un des grands défis que nous donne Jésus dans sa mort. Il est mort pour que nous nous entendions. Mais pourrons-nous nous entendre? Pourquoi c'est si difficile de s'entendre? Regardez tout simplement au niveau politique de notre pays. Regardez dans la société, jusqu'au sein de nos églises. Qui d'entre nous oserait dire que notre entente est parfaite? C'est simple parce que je ne vous connais pas suffisamment pour savoir quels sont vos problèmes, donc c'est plus simple pour moi. Mais dans notre société, pour résoudre ce problème, on va parler de tolérance. Il faut être tolérant. Un beau principe, mais qui n'est pas un principe chrétien. En tout cas, qui ne suffit pas pour le chrétien. Je crois qu'on a tous déjà appréhendé dans notre quotidien une réunion de famille sensible. Vous savez, c'est un repas de Noël où on ne peut pas parler de politique parce qu'on n'est pas du même bord, où on ne peut pas parler d'église parce qu'on n'est pas des mêmes églises et qu'on n'a pas la même théologie, où on ne peut pas parler du Covid, à l'époque du Covid, et des vaccins parce que ça rendait fou la moitié de la table. Si on a un qui n'a pas vécu ça, qui me vienne me voir. Et puis même si on parvient à faire ce repas de Noël sans dispute, ces moments nous laissent vraiment souvent de la frustration. Parce que, au mieux, on a réussi à parler de tout, sauf ce qui est intéressant et qui pourrait nous fâcher. On a parlé, on va dire banalement, de la pluie et du beau temps. Est-ce que nous aspirons le plus à avoir une relation de cœur à cœur, à s'ouvrir à l'autre, à vivre ce qu'est l'amour, c'est-à-dire des relations authentiques? Eh ben, nous n'y arrivons pas. Et nous y avons bien du mal, même dans nos églises, si on veut être honnête, entre nos frères et sœurs, qui font partie de la communauté, alors qu'on pense que tout devrait être simple, que quand Jésus dit qu'il y a deux commandements qui sont essentiels, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu, on va encore bien, même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a quelques qualificatifs à la façon d'aimer Dieu, hein, on est d'accord. Mais aimer son prochain comme soi-même, là, c'est, je trouve, encore plus difficile. Et Paul, dans la lettre aux Romains, va nous donner des clés sur ce sujet, surtout dans les derniers chapitres, quand il écrit aux chrétiens de Rome. Et on voit souvent l'épître aux Romains comme un traité théologique très dense, ce qui est vrai. Mais c'est aussi une lettre pastorale, et surtout à la fin. Une lettre pastorale qui cherche à réconcilier les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. C'est une lettre qui traite de la manière de traiter nos différends. Ces milliers de petits griefs des petites choses qui font qu'un jour on ne se supporte plus. Et je vais vous lire dans Romains 14, je ne vais pas tout vous lire Romains 14 parce que c'est bien trop long, mais je vais vous lire des extraits, je vous encourage à lire dans la semaine Romains 14 du verset 1 jusqu'à chapitre 15 verset 13, qui traite vraiment de la même question, parce que ça forme un tout et je n'arriverai jamais à tout dire ce matin. Ouais, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Romains 14, on va lire les trois premiers versets. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. C'est déjà quelque chose de compliqué. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Nous avons besoin de sortir de nos différences. Alors, je me suis amusé à faire des petits carrés. J'ai essayé de garder quelque chose de très neutre, mais juste pour essayer de comprendre. L'une des questions qui est traitée dans le début de Romains 14, c'est les différences culturelles qui concernent la nourriture qui prenait lors des repas communautaires. Est-ce que quand on se réunit pour faire un repas ensemble dans l'église, est-ce qu'on doit respecter les coutumes juives ou pas? En fait, c'est la question, elle est là. Un peu plus tard, un peu plus loin dans le texte, ils vont parler du sabbat. Est-ce qu'on doit respecter les jours fériés juifs, dont le sabbat? Vraie question. Le problème, c'est que c'était plus que des habitudes. Les pratiques alimentaires, la circoncision, le sabbat, les fêtes, ça démarquait vraiment les juifs en tant que peuple. C'était leur ligne de démarcation. C'était leur identité, les frontières avec les autres peuples. Un juif ne mange pas de porc. Un juif mange kasher. Un juif respecte le Shabbat, il ne fait rien. Et c'est comme ça que je m'identifie comme juif. Alors on dit, nous, on est très différents, nous ne sommes pas juifs, nous n'avons pas tout ça. Ben, on n'est pas si différents, on a plein d'habitudes culturelles qui définissent qui nous sommes, notre identité. Moi, quand j'étais enfant ou ado, je n'aurais jamais osé venir en jean au culte. Ça ne se faisait pas. À l'époque, on avait des habits du dimanche. Et je peux vous dire que j'ai prêché en jean la première fois, j'avais plus de 40 ans. Juste habitude culturelle. Moi, encore maintenant, laver ma voiture le dimanche ou tondre ma pelouse, je n'oserais pas. À me dire, c'est normal, c'est dimanche. Moi, boire de l'alcool, j'oserais un petit peu, mais fumer, pas du tout. Alors j'ai rencontré des chrétiens néerlandais, eux, ils fumaient des gros pétards, des cigares comme ça, mais boire de l'alcool, c'était impensable comme chrétien. Adorer les mains levées ou adorer assis dans le silence, avoir une foi expressive, un peu exaltée, ou une foi tout intérieure, un peu introvertie, combien vont se juger juste sur la manière de s'exprimer? Combien on est prompt à donner notre avis? Prenez le mot repentance. Le mot repentance, il était traduit dans les nouvelles versions Sommer, second 21, par changer de comportement. Pour être plus précis au niveau de la traduction, pour donner un sens plus général à la traduction, combien j'ai entendu de chrétiens dire « mais c'est une honte ». La repentance, c'est regretter amèrement son péché, pleurer sur son péché et sur sa vie, ce qui est vrai aussi. Il y a un choix de traduction, parce que le terme, il est beaucoup plus large et on n'a pas un seul mot qui explique tout. Et on est capable de se battre sur cette question, alors que chaque définition, elle va mettre en évidence quelque chose de très intéressant. Alors, ces cadres, ces choses qu'on s'impose, un peu culturelles, elles ne sont pas mauvaises. Le problème n'est pas là. Mais quand quelqu'un nous interpelle en faisant autrement, comment est-ce qu'on nous réagissons? Ou quelqu'un nous interpelle en nous demandant de faire autrement? Comment est-ce que nous réagissons à ce moment-là? Comment est-ce que nous sortons de ce cadre, je dirais, identitaire? Est-ce que, par exemple, très concrètement, participer à certaines cérémonies religieuses en allant à un baptême d'enfant, et pire, être parrain d'un enfant qui est baptisé, qui n'a pas eu le choix du baptême, est-ce que ça nous fait cautionner le baptême d'enfant? Est-ce que mon identité m'empêche ou me permet de le faire? Parce que toutes ces différences, ces manières de voir, ces limites qu'on se met deviennent vite des oppositions. Elles finissent par nous diviser dans l'Église. Et dans ce contexte, où nos différences conduisent à la division, il y a Paul qui va remplacer le terme juif et non juif par le terme faible et fort. Et au premier abord, on se dit, oh, c'est encore pire. Il aggrave le problème parce que maintenant, il y a les forts et il y a les faibles. Et la question que Paul va nous poser dans ce texte, c'est finalement qui est le faible et qui est le fort. En déplaçant cette question sur faible et fort, et Paul ne met plus le focus sur nos habitudes, nos traditions, mais il va mettre le focus sur notre force ou notre faiblesse spirituelle. Il ne va plus dire « Est-ce qu'un chrétien a le droit de danser ?» Parce que moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit de danser. Mais il va dire « Est-ce qu'un chrétien fort peut danser dans le contexte actuel où il est, dans ce qu'il vit actuellement ?» C'est très différent, vous allez voir pourquoi. Parce que le sujet n'est pas de savoir si danser est bien ou mal, dans l'absolu, mais savoir si dans notre contexte on peut le faire. Parce que quand on discute de tout cela, en fait on aborde une question qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que notre conception de la liberté ? En France, pour être libre, c'est avoir une autonomie personnelle. Je suis libre, je suis autonome, je fais ce que je veux, à condition que je ne porte pas préjudice, surtout préjudice physique à quelqu'un ou à sa propriété, je ne peux pas empiéter sur sa propriété, ma liberté elle s'arrête à la clôture, par exemple, du voisin. Mais je dois être libre de vivre comme je veux, tant que je ne porte pas atteinte physiquement à l'autre. Vivre comme je veux, selon mes propres goûts et mes propres intérêts. C'est un principe de non-nuisance. Hein. Je ne veux pas nuire à l'autre, mais la liberté, quand elle est définie comme ça, c'est un droit. J'ai le droit de vivre comme je veux. Et quand le texte biblique commence de nous dire « Ta liberté, tu vas peut-être la réduire pour tenir compte des scrupules de ton prochain », oh là, ça on n'aime pas trop. Et c'est même presque non envisageable. Et la définition que Paul donne de la liberté, c'est vraiment très différent. Nous devons être libérés du pouvoir asservissant du péché, et pas en vue de notre autonomie personnelle. Nous devons être libres en vue du développement du royaume de Dieu. Parce que nous, notre façon de comprendre, c'est souvent ces petits carrés. Chaque petit carré, c'est un petit territoire. Vous voyez, il est dans un cercle, c'est un petit territoire pour lui, et il n'est pas question qu'il puisse céder quelque chose à l'autre. Et Paul fait le choix de dire que on était libéré de l'esclavage du péché, pas pour être libre, mais pour être esclave de la justice. Ça, c'est chapitre 6, verset 18. Nous n'avons pas été libérés du, du péché pour juste être autonome, faire ce qu'on veut, et pour être esclave de la justice. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il débute le chapitre en discutant s'ils ont le droit de manger des légumes ou de la viande, et qu'est-ce qui est le mieux. Et puis Paul leur répond, ce n'est pas vos habitudes culturelles ou religieuses qui comptent, ce n'est pas ce que vous faites, c'est comment vous allez vivre ensemble. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Et Paul oppose manger et boire à justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Et il veut dire par là que la liberté, ce n'est pas simplement obtenir ce qu'on veut. Cette nouvelle vie par l'Esprit nous libère pour aimer notre prochain. C'est ça la vraie liberté. L'aspiration à être le plus autonome possible, le but de pouvoir accomplir tous nos désirs, tout ce que nous voulons directement, conduit à la division. Il n'y a pas d'autre choix. Et quand nous considérons que notre autonomie, nos désirs, notre envie de faire comme on veut, c'est notre bien suprême, eh ben on va faire des clans. Pour protéger nos intérêts, pour obtenir le maximum de gens avec nous, pour gagner, faire comme on a envie. Le royaume de Dieu, vous savez, ce n'est pas le style de louange. J'entendais quelqu'un dans une église me dire, ah ben moi, ça doit être la louange à quatre voix. Et s'il n'y a pas de louange à quatre voix, ce n'est plus l'église. J'ai dit, ok, pour toi, c'est la louange à quatre voix, mais pour d'autres, ça va être autre chose. Le royaume de Dieu, ce n'est pas j'ai le droit à, ce n'est pas la forme du culte, ce n'est pas des piercings ou des pas de piercings ou des tatouages ou pas de tatouages, ce n'est pas les différentes interdictions apportées par l'Église au cours des siècles. Ce n'est vraiment pas ça. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ainsi donc, recherchons ce qui va nous permettre de vivre une vraie liberté. Recherchons la paix entre nous et la construction mutuelle de notre foi. Et notre but, ce n'est pas de nous concentrer sur nos objectifs personnels, sur ce qu'on aime, mais sur la bonne santé fraternelle et spirituelle de l'Église. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas tellement ce que je vais faire et comment je le fais, mais comment je suis dans mes rapports aux autres et à Dieu. Le fort, vous savez, c'est celui qui rayonne, en fait. Ce n'est pas le gros mastoc. Ce n'est pas celui qui affirme que c'est comme ça et rien d'autre. Celui qui rayonne parce qu'il a une vie éthiquement juste, parce qu'il a une vie paisible avec les autres et dans la joie, parce qu'il va aider à la construction de la foi dans l'Église. Voilà le fort, comme le traduit Paul. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est ne pas juger. Donc sortir nos différences, c'est ne pas juger. Ne pas juger parce que ce n'est pas notre rôle. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qui es-tu? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Juger, c'est porter une appréciation, établir une valeur. On décide de qui a raison ou qui a tort. On décide que la boîte bleue est la plus belle. On méprise la boîte rouge. C'est les mêmes boîtes. Il y a une bleue, il y a une rouge. On sait bien que allez, 37% des Français préfèrent la couleur bleue. Et qu'ils sont beaucoup moins nombreux à préférer le rouge. Donc les bleus ont raison. Est-ce que c'est ça la règle ? Jugez. Au verset 14, ce que Paul dit aussi, c'est « Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur, que Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » Juger, c'est de l'orgueil. Parce que ça veut dire on sait qu'est-ce qui est le mieux, on est tellement sûr de nous. On a même la prétention de penser, quand c'est spirituel, que Dieu pense et juge comme nous. Que Dieu pense comme nous. Qui es-tu, verset 4, pour juger le serviteur d'un autre ? Et au-delà du jugement vient vite le mépris. Nous pensons que Dieu va mépriser, va détester les mêmes personnes que nous parce que Dieu pense comme nous. Nous sommes vraiment invités à ne pas juger parce que Dieu jugera lui-même à la fin. C'est lui l'arbitre. Verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Paul nous montre vraiment, Dieu est au-dessus de nos divisions. Et nous serons tous confrontés à son jugement, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et rendra compte en particulier dans sa manière dont il a aidé ou non à la construction de l'Église. Le véritable défi qu'est donné au peuple de Dieu. Et rien que savoir qu'on devra rendre compte à Dieu, moi je trouve que ça réfrène mon envie de juger. Nous sommes aussi appelés à bien juger des conséquences de nos jugements. Il va nous dire, arrêtez de juger les autres, mais réfléchissez à ce que vous faites quand vous jugez. Et il va utiliser le même mot pour juger. Au verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Au lieu de juger l'autre, juge un peu ton comportement. Juge ta manière de te comporter avec l'autre. Juge si ce que tu fais, ce que tu dis, attriste ton frère, ou pire, le fait chuter. Parce que dans ce cas-là, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture, c'est le verset 15, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc notre priorité, c'est de ne pas faire tomber notre frère, mais de le faire grandir dans la foi. Quand nous étions au Tchad, il était interdit de boire de l'alcool parce que l'Église considérait ça comme un grave péché. Et donc, les 2 ans où nous avons vécu au Tchad, nous avons fait le choix de ne pas boire d'alcool pour ne pas faire chuter nos frères. Ce n'était pas parce qu'on était convaincus que c'était une chose juste, mais parce que c'était plus important de ne pas faire chuter notre frère pour lequel Christ était mort. Ne pas juger, car le faible n'est pas forcément celui que l'on croit. Le faible, si on suit le raisonnement de Paul, finalement c'est celui qui pense que son autonomie, ses droits, sont plus importants que ce qui contribue à entretenir la paix, à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Ça, c'est le verset 19. Moi, je pense comme ça, donc on doit faire comme ça. Le faible, c'est celui pour qui le secondaire est prioritaire. On doit faire comme ça. Tout le secondaire est prioritaire. Celui qui pense que certains aliments, la manière de vivre le culte, de respecter le dimanche, de prendre la scène, de comprendre tel passage de l'Écriture, controversé dans son interprétation, est au même niveau que vivre le royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est une faiblesse spirituelle, en fait, de ou une incapacité à voir que sa foi lui permet de boire, de danser, de chanter du rock ou du grégorien, peu importe, de vivre plus librement en Christ. Et dans notre foi, je trouve que c'est vraiment important de se dire, mais qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour mon frère? Très concrètement. Tout comme le Christ a donné sa vie, les forts doivent renoncer à leurs préférences alimentaires ou autres pour le bien des faibles. Verset 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. C'est pas facile, hein? Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Et je crois vraiment qu'on peut dire que Jésus n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Le fort, c'est vraiment celui qui lâche sur le secondaire. Je vous ai dit, au Tchad, on avait décidé de ne pas boire d'alcool. Par contre, on nous imposait de ne pas nous baigner dans le fleuve le dimanche après-midi, parce que c'était le jour du Seigneur. Et nos frères américains pensaient que c'était vraiment mal. Quand il faisait 45 degrés à l'ombre et qu'on avait le fleuve à 5 km et qu'on avait la possibilité de s'y baigner, et je vous avoue que là, on n'a pas pu lâcher ce secondaire-là. Pour nous, il était tellement... Voilà, on a été se baigner, on leur a expliqué. Il y a des moments, voilà, on n'arrive pas à aller au bout pour son frère. Ils ne croient pas qu'on les a fait chuter pour ça, dans leur foi. Mais voilà, c'est les limites hein, qu'on a par le moment. Mais le fort, je crois que c'est tellement celui qui s'est lâché. C'est un peu le premier qui lâche, le fort. C'est l'inverse du monde. Ce n'est pas ce qu'on voit actuellement en politique. Hein. Le fort, c'est le premier qui lâche. Et la raison pour lâcher, ce n'est pas le mépris pour le faible. Pas parce que... Allez, hein, vous voyez, ce geste-là qui fait qu'on le méprise. Mais la raison pour lâcher, c'est notre amour pour le faible, afin de le respecter dans sa conscience. Parce que ça vaut le coup pour lui. Respecter la conscience de chacun, c'est reconnaître encore une fois que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu manifesté dans l'Église qui importe avant tout. Promouvoir l'unité plutôt que la division. La vision de Paul est vraiment une vision communautaire et pas une vision individualiste sur nos droits. Et pour terminer ce troisième paragraphe sur accueillir, on doit accueillir l'autre. Alors on doit sortir de nos différences, on doit ne pas juger, mais on doit vraiment être dans l'accueil de l'autre. Et par trois fois dans ce texte, au verset 1, 3 et au chapitre 15, verset 7, Paul définit une éthique de l'accueil. 14, verset 1, je vous le lis, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Au verset 3, « Que celui qui mange de tout ne méprise pas que celui qui ne le fait pas et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'a accueilli. » Et 15-7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et appliquer à l'ensemble de l'Église le devoir des forts, c'est d'accueillir vraiment celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Il le fait parce qu'un jour Dieu l'a accueilli. On est capable de le faire parce qu'un jour Dieu nous a accueillis comme on était. On n'était pas si fort que ça. Et je crois que la chose qu'on doit se rappeler, c'est que tu as été accueilli par Dieu. Donc tu peux accueillir l'autre sans discuter ses opinions. Juste l'accueillir. Accueillir l'autre, c'est pas mettre chacun dans une boîte. Vous voyez, j'ai mis toutes les boîtes bleues ensemble, j'ai mis toutes les rouges ensemble, et on peut faire autant de séparations qu'on veut. Chacun dans son petit coin. On va mettre les couples dans un groupe, les célibataires dans l'autre, on va mettre les charismatiques dans un groupe, les non-charismatiques dans l'autre, on va mettre les jeunes dans un groupe, les vieux dans un autre, vous pouvez faire ça autant que vous voulez, autant de boîtes que vous voulez. Parce qu'on va dire, si tu penses ceci, alors c'est que tu crois cela. Et on va fabriquer l'autre une petite boîte pour le mettre dans cette petite boîte. Parce que c'est tellement plus facile de fabriquer une petite boîte. On est sûr qu'il est comme ça. Enfin, on est sûr de rien du tout, on ne le connaît pas. Et c'est terrible quand on met nos boîtes dans l'Église. Et nous croyons souvent que les bleus sont meilleurs. Nous croyons souvent que telle ou telle chose est meilleure. Si nous sommes attentifs, nous allons nous rendre compte que dans notre boîte bleue, en fait, il n'y en a pas un qui est pareil, qui sont tous dans le désordre. En fait, chacun joue son petit jeu, sa petite partition tout seul. Et qu'on ne construit pas le royaume comme ça. On construit des petits royaumes perso, mais pas celui de Dieu. Et même dans la boîte bleue, on est capable de se diviser, de montrer combien on est différent, meilleur, ou je ne sais quoi. Il y a des médecins du monde entier qui se sont rendus chez Paul Tournier, vous avez probablement lu des livres de lui, pour apprendre de lui comme médecin et thérapeute. Et il disait que c'était gênant pour lui de recevoir tous ses étudiants qui venaient étudier ses techniques. Puis il dit, ils étaient toujours déçus quand ils repartaient parce que la seule chose que je faisais, c'était d'accepter les gens comme ils étaient. La vision de la liberté que nous propose Paul, c'est nous inviter à considérer ceux qui sont différents de nous comme nous-mêmes. Pas différents de nous-mêmes, mais comme nous-mêmes. Accueillir, c'est vraiment se mettre dans le même ensemble que l'autre, en fait. Et on revient à nos petits carrés, à nos petites boîtes carrées. Parce que plus qu'une boîte qui enferme, l'Église, c'est en fait un ensemble qui réunit. Et vous voyez que les frontières de l'ensemble sont devenues plus souples, moins rigides. C'est ça l'Église. Parce que nous ne devons jamais oublier une valeur fondamentale dans l'Église. En fait, nous appartenons au Seigneur dans la vie comme dans la mort. C'est les versets 7 et 8. Et Paul compare tous les croyants à des serviteurs qui ne doivent pas se juger les uns les autres puisqu'ils servent tous le même maître. Ils sont tous dans la même boîte, en fait. Et Paul va un cran plus loin. Et il dit, en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, en fait. Aucun de nous ne vit ou ne devrait vivre pour lui-même. Et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Dans cette même appartenance, on vit, on travaille et on meurt pour le Maître. Ça paraît simpliste, c'est fondamental. On vit, on travaille et on meurt pour le Maître. Et on est appelé à considérer l'autre comme des compagnons de service. C'est une étape essentielle pour aller plus loin que juste tolérer l'autre. D'arriver à collaborer avec l'autre. Donc Paul, il n'appelle pas simplement à supporter l'autre avec un comportement pénible, aussi longtemps qu'on en est capable, mais il nous dit « accueille le faible comme il est, sans chercher à le changer, il doit être accueilli, sans le regarder de haut comme s'il était un faible, mais en le regardant comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. » Comme un compagnon de service avec qui tu vas construire ensemble pour le maître. Le maître, vous savez, c'est la pierre d'angle, la pierre blanche, celle qui fait l'angle. Il est tout en bas. C'est celui qui s'est humilié, qui s'est mis en position de serviteur. Et il nous a permis de venir nous ajuster à côté de lui. Quelle que soit notre forme, quelle que soit notre couleur, nous bâtissons ensemble cette construction. Donc, accueillir, c'est pas chercher sa propre satisfaction, c'est pas dire j'ai raison, Il n'y a pas de focus particulier sur les pierres, mais le focus, il est sur l'ensemble de la construction. C'est ce qui sera beau. On a récemment, avec ma femme, travaillé sur un film sur l'évangélisation dans le pays de Montbéliard depuis les années 50. Moi, je suis juste émerveillé de voir la construction qui a été faite, avec tant de choses différentes. Alors, j'ai entendu des gens dire « Oui, mais ça valait rien, ça, c'est ça qui est important, etc. » Quand on regarde la construction, on dit « C'était juste joli, c'était tellement beau, c'est le royaume de Dieu qu'on a annoncé. » De façon tellement différente. Et clair qu'il y en a pour tous les goûts. Mais c'est ça, la construction que Dieu veut. C'est pas vivre ou mourir pour soi-même, c'est vivre et construire en s'ajustant au Maître pour son royaume. Alors, si notre désir est vraiment de vivre ou mourir pour le Maître, alors nous sortirons assez facilement de nos petites différences. Si notre focus, c'est ça, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de sortir de nos différences, de ne pas juger et d'accueillir réellement nos frères et sœurs comme de vraies pierres pour bâtir, comme ils sont, comme de véritables compagnons de service. Pour terminer, je vous laisse juste ce commentaire de Martin Luther, que j'aime beaucoup, qui dit « Un chrétien est le Seigneur le plus libre de tous, ne s'assujettissant à personne. » Ça, c'est notre liberté. Il rajoute, un chrétien est le serviteur le plus dévoué de tous, soumis à tous. Et nous avons cette double réalité à vivre dans nos vies. Seigneur, nous venons vers toi et te disons que nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de vivre et mourir pour toi, parce que c'est notre seule vraie option pour honorer ta mort sur la croix. C'est la chose que tu nous demandes de vivre, construire ton Église, construire ton royaume. Merci. Merci parce que tu nous as choisis pour être ces pierres. Merci pour la construction que tu réalises. Alors aide-nous à détacher le regard de notre petite pierre, mais à regarder la construction, ce royaume de Dieu qui grandit et qui avance. En ton nom Jésus. Amen.